Il était une fois.
Bonjour à toi, voyageur. La semaine dernière, nous avions laissé Isis après ses retrouvailles avec Osiris. Je vous propose de la retrouver alors qu'elle allaite son fils, Horus. La voilà mère maintenant. Elle passe du statut de veuve éplorée à celui de mère célibataire. Et le destin ne lui épargne rien. Son frère, Seth, cherche à tuer la progéniture de l'être qu'il haït tant, ce divin enfant, Horus, qui règnera peut-être un jour sur toute l'Égypte. Alors, la rusée Isis se cache dans les sombres marais, là où le Nil se jette dans la Méditerranée. Elle espère ainsi échapper à la vigilance du perfide imposteur. Mais combien est difficile la vie dans le Delta ? La courageuse déesse est sans cesse occupée à trouver des moyens de subsistance pour elle et son fils. Et la tâche est ardue. Son fils Horus, d'ailleurs, paraît si faible. Survivra-t-il assez longtemps pour venger son père et rétablir l'harmonie chez les hommes ? C'est un enfant malingre, frêle, innocent et sans défense. Il est souvent la victime de morsures de serpents, de fièvre, de diarrhée et de mutilations dues à l'extrême rigueur de leur cachette et aux incessantes attaques de Seth. Un jour, alors qu'il est délaissé une nouvelle fois, Horus est la victime d'une violente piqûre de scorpion. Voilà l'enfant qui gémit, se tord de douleur. Il appelle à l'aide. Mais personne ne répond et le venin atteint son cœur. Le soir, Isis retrouve son fils inanimé, proche de la mort. Le poison est trop fort et sa magie est inefficace. Désespérée, elle cherche de l'aide auprès des Égyptiens voisins de leur cachette. Mais leur maigre savoir ne parvient pas à guérir la jeune victime. Alors, Isis pleure et se plaint. Ses cris font accourir sa sœur Nefti et Serket, la déesse qui fait respirer. Cette dernière, voyant la piqûre, conseille aussitôt à la mère en détresse de faire appel à Ré. Ce venin est trop puissant, ô infatigable Isis. Sa brûlure est entrée dans ton fils, et nul n'est capable de retirer un tel poison. Appelle celui dont les rayons éclairent la terre. Seule sa puissance saura sauver l'enfant. La déesse se précipite alors chez Ré et le supplie de l'aider. Ému par son désespoir, le dieu solaire arrête immédiatement sa course céleste, s'immobilise dans le ciel et appelle le sage Thoth. Celui-ci descend auprès du jeune agonisant et après de nombreuses paroles magiques, il réussit enfin à évacuer le poison du corps d'Horus, qui aussitôt revient à la vie. La mère le serre dans ses bras et verse des larmes de joie. Cela fait, Thoth ordonne aux Égyptiens de veiller constamment sur le jeune dieu en l'absence d'Isis. Puis il retourne auprès de Ré et annonce à son maître que la course solaire peut à présent se poursuivre normalement. Les années passent et la survie de l'enfant Horus n'est possible que grâce à l'action efficace de la rusée Isis, magicienne hors norme. Si bien que l'enfant grandit et devient un fier et fougueux adolescent. Isis décide alors qu'il est temps de sortir de leur cachette, pour qu'il puisse réclamer ce qui lui revient de droit, le trône de son père sur l'Égypte. Face aux revendications du jeune homme, Ré convoque le tribunal des dieux. Un par un, les dieux égyptiens prennent place autour d'Horus et l'écoutent parler. Lorsque le garçon finit, c'est au tour de Seth de se défendre. Enfin, Isis accable le dieu Félon, et la dispute n'en finit plus. Chaque dieu finit par prendre parti, les uns défendant la légitimité d'Horus, et les autres soutenant que le garçon n'a pas l'expérience nécessaire à un tel statut. Ré lui-même se positionne en faveur de Seth. Il faut dire que le dieu du désordre est aussi celui qui l'a toujours défendu contre Apophis, le monstrueux serpent des origines, qui tente chaque nuit de manger le soleil. Pas question pour Ré de rendre un jugement défavorable à son vaillant défenseur, mais il ne peut pas non plus désavouer le fils de la puissante Isis. Alors il fait traîner le débat. Et dans ce capharnaüm d'injures et de coups bas, aucun parti ne l'emporte sur l'autre. Au bout de 80 ans de discussion, les dieux n'en peuvent plus. Lassés des retournements et des hésitations du vieux Ré, ils veulent appeler un avis extérieur. Mais ce dernier ne peut se résoudre à abandonner le jugement de cette affaire. Il propose de rendre son verdict sur l'île du milieu, la belle éléphantine, là où nul ne pourra les déranger. Seth, furieux contre Isis, demande à ce que les débats se poursuivent en son absence. La requête est acceptée, mais Ré ne pouvant toujours pas se mettre à dos la déesse aux mille ruses, il ordonne à Anubis d'interdire l'accès de l'île à toute femme. Voilà comment la courageuse mère est éloignée de l'assemblée. Laissée seule, elle enrage. Son ennemi est rusé, mais elle est tenace. Elle prend l'apparence d'une femme extraordinairement belle. Soudoie Anubis par ses danses et s'introduit dans le tribunal. Elle ne manque pas rapidement d'attirer l'attention de Seth, dieu ô combien lubrique. Et pendant que Ré tient un épuisant discours, il l'invite à venir converser avec lui. Troublé par tant de beauté, Seth s'égare dans ses propos. Il lui demande qui elle est. Elle lui répond qu'elle est celle qu'on a bafouée en assassinant son mari et en volant le trône de son fils. Elle lui raconte comment tout s'est déroulé, cachant sa propre histoire derrière les mots d'une étrangère. Seth tombe dans le piège, lui donne raison, et va jusqu'à lui proposer de devenir son justicier. La rusée Isis se dévoile alors et rit de lui. Seth reste sans voix. Il bafouille, essaye tant bien que mal de se défendre devant les autres dieux qui ne cachent pas leur moquerie. Ré, quant à lui, est dépité. Il ne peut que juger de l'imprudence de Seth qui s'est confié sans prendre garde à une inconnue. En premier lieu, il punit Anubis pour s'être laissé corrompre par Isis. Puis il s'apprête à ordonner le couronnement d'Horus. Mais le colérique Seth est décidé à ne pas en rester là. Avant que Ré ne puisse parler, il propose à Horus une dernière épreuve, aquatique. Celui qui restera le plus longtemps sous l'eau deviendra roi. Isis s'indigne. Horus, lui, est encore jeune, et il est fier, assez pour accepter le défi, sûr de sa victoire. Les voilà, tous les deux, qui plongent dans l'eau poisonneuse du Nil, et prennent la forme de gigantesques hippopotames. Ils restent en apnée pendant 3 mois, oui, 3 mois, sans que ni l'un ni l'autre ne montre de signe de fatigue. Isis, restée sur la berge, s'impatiente. Craignant pour la vie de son fils, elle décide d'intervenir. Du limon fertile du fleuve, elle sort une lance magique et tente d'harponner le dieu cruel afin de l'obliger à émerger hors de l'eau. Son coup rate sa cible et le métal mord le corps d'Horus. Celui-ci hurle de douleur et se débat. Isis panique. Vite, par son langage cosmique, elle ordonne au harpon de lâcher sa proie. L'objet aiguisé revient dans sa main. Prenant le temps de viser son ennemi, elle le lance à nouveau. L'arme perce le flanc de Seth. À son tour, il hurle de douleur et maudit Isis. As-tu oublié que je suis ton frère? Celui qui sortit du ventre de Nout un jour avant toi. Ne sois pas cruel et retire ce harpon de mon corps. Le jugement du Nil n'est pas fini. La douce magicienne est alors prise de remords. Et dans un geste que nous, pauvres humains, ne pouvons comprendre, elle décide de dissoudre l'arme afin que les deux dieux puissent continuer leur duel sous l'eau. Cela en est trop pour Horus. Pensant peut-être qu'Isis se rangeait du côté de son ennemi, Il sombre dans une colère aveuglante, sort de l'eau, la face furieuse, et d'un geste fou, il décapite sa mère. Les dieux, témoins de l'horrible sort de la magicienne, restent abasourdis. Que dire? Que faire? Même Seth n'ose revendiquer sa victoire. L'incompréhension est trop grande. Pour Horus aussi, c'est le désarroi qui domine lorsque redescend sa colère. De honte, il fuit dans le désert et y reste caché. Seth part immédiatement à sa poursuite, et les deux rivaux se livrent un combat terrifiant. Dans la sanglante bataille qui s'ensuit, Seth arrache un œil à Horus, pendant que l'enfant fait perdre un testicule au dieu mauvais. Thoth, lui, est resté aux côtés du corps décapité de sa chère nièce. Celui-ci a pris la couleur et la dureté de la pierre. D'un triste geste, il caresse le dos de cette statue, et sent sous ses doigts un cœur qui palpite. La puissance de la déesse Isis est sans pareil. Elle, qui a été deux fois veuve, mère d'un enfant chétif, et qui a erré autour du monde en quête de son mari, sans jamais faiblir, voilà qu'elle continue de vivre sans sa tête. Le dieu aux sages paroles va vite chercher une vache sacrée, et dans un rituel secret, transfère la tête de l'animal sur celui de la déesse. Voilà qu'elle peut à nouveau respirer, voir et parler. Osiris, resté jusqu'alors silencieux, intervient depuis l'au-delà et met directement en cause le tribunal qu'il juge trop laxiste. En tant que dieu de la végétation, il menace de couper les vivres à l'Égypte et de décimer la population par la maladie. Pourquoi fait-on tort à mon fils Horus? C'est moi qui ai fait que vous êtes fort. C'est moi qui ai créé l'orge et les potres pour faire vivre les dieux, de même que les troupeaux qui paissent sous votre garde. Il ne s'est trouvé aucun dieu ni aucune déesse pour faire cela. Placez mon fils sur le trône d'Égypte et qu'il y règne jusqu'à ce que l'âge l'amène en mon royaume. Jusqu'à ce moment, nul ne pourra l'atteindre sans que ma colère ne retombe sur lui. Les dieux, bousculés par tant d'autorité, ne tardent pas à rendre un verdict favorable à Horus. Et Seth n'est pas oublié. Placé aux côtés de Ré, il devient celui qui hurle dans le ciel, le très respecté dieu de l'orage. C'est ainsi que le tribunal des dieux se termine par la victoire du fils d'Osiris. Quant à Isis, elle devient la déesse la plus adorée partout où porte la voix humaine. Elle traversera les siècles, changeant maintes fois de nom selon la religion en vigueur chez les hommes. Elle est restée dans notre mémoire collective, comme étant la protectrice du cadavre de son mari Osiris, la mère aimante du souverain Horus, la guerrière farouche qui lutta contre Seth, et enfin, comme la bienfaitrice de toute l'Égypte. Les textes sacrés la présentent comme la déesse qui s'est produite au commencement, a rempli le ciel et la terre de sa perfection, vénérable, puissante, maîtresse des dieux, qui a souffert pour nous et dont le nom est distingué parmi les déesses.